Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nart-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « De l'inégalité parmi les sociétés est un essai d'histoire globale » dans lequel Jared Diamond cherche à expliquer pourquoi certaines sociétés ont acquis, au fil des millénaires, des avantages militaires, techniques et politiques leur permettant de conquérir ou dominer d'autres régions. Partant d'une question posée en Nouvelle-Guinée sur la disparité entre les peuples, l'auteur refuse les explications fondées sur une prétendue supériorité innée des populations. Sa thèse centrale attribue les écarts historiques à des conditions environnementales inégalement réparties. Diamond relie la disponibilité des espèces domesticables, la naissance de l'agriculture, les surplus alimentaires, la densité démographique, les épidémies, l'écriture et les techniques dans une longue chaîne de causalité. Publié sous le titre original Guns, Germs and Steel, l'ouvrage mobilise géographie, archéologie, biologie évolutive, linguistique et histoire. Il propose moins une chronique des civilisations qu'un cadre explicatif comparatif pour comprendre les causes profondes des inégalités de puissance entre sociétés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la réfutation des explications raciales de la domination historique. Le point de départ intellectuel du livre est le rejet net de toute explication génétique des différences de développement entre sociétés. Diamond ne demande pas quelle population aurait été intrinsèquement plus inventive, intelligente ou ambitieuse. Il inverse la perspective et s'interroge sur les ressources, contraintes et occasions dont les populations ont hérité selon les régions où elles vivaient. Cette position est décisive car les conquêtes européennes ont souvent été justifiées par des récits de supériorité civilisationnelle ou raciale. Pour Diamond, les conquérants disposaient d'armes, d'organisations étatiques et d'une immunité relative à certaines maladies. Non parce qu'ils possédaient une nature différente, mais parce que leurs ancêtres avaient bénéficié plutôt de conditions écologiques favorables. L'essai déplace donc l'analyse des causes immédiates, telles que les décisions de chefs ou les batailles, vers des causes lointaines remontant à la fin de la dernière période glaciaire. Cette démarche n'efface pas les responsabilités politiques, notamment dans la violence coloniale. Elle vise plutôt à expliquer comment des écarts matériels et épidémiologiques ont pu se constituer avant les rencontres entre continents. Le livre offre ainsi une critique structurée des hiérarchies culturelles, tout en défendant une histoire attentive aux contraintes matérielles. Deuxièmement, la domestication comme origine des surplus et des sociétés complexes. Diamond place la production alimentaire au commencement de la divergence historique. Dans certaines zones, des plantes productives et des mammifères susceptibles d'être domestiqués étaient disponibles en nombre relativement important. Leur culture et leur élevage ont permis une production plus prévisible que la chasse et la cueillette, sans constituer pour autant une amélioration uniforme des conditions de vie individuelles. L'enjeu majeur est le surplus. Lorsqu'une part de la population peut être nourrie sans produire directement sa subsistance, des spécialisations deviennent possibles. Des artisans, administrateurs, soldats, chefs politiques et producteurs de techniques peuvent émerger et être entretenus. Une population plus dense favorise aussi la formation d'institutions centralisées et accélère la circulation des innovations. Diamond insiste sur le fait que ce processus est cumulatif, davantage de nourriture peut soutenir davantage d'habitants qui peuvent ensuite développer des structures plus complexes et des moyens de puissance plus efficaces. L'agriculture ne suffit pas seule à expliquer une conquête, mais elle alimente une série de transformations qui rendent possible l'écriture, les armées permanentes et la fabrication spécialisée d'outils ou d'armes. Cette chaîne causale permet à l'auteur de relier l'écologie des espèces sauvages aux inégalités historiques à grande échelle. Troisièmement, les germes et l'immunité comme instruments involontaires de conquête. Le rôle des maladies est l'une des dimensions les plus marquantes de la démonstration. Les sociétés agricoles denses, vivant à proximité d'animaux domestiques, ont constitué des environnements propices à l'apparition et à la circulation de maladies infectieuses. À travers des épidémies répétées sur de longues périodes, les populations eurasiennes ont subi une forte mortalité, mais ont aussi développé des formes de résistance collective à certains agents pathogènes. Lors des contacts avec les Amériques et d'autres régions longtemps isolées, cette différence épidémiologique a produit des effets catastrophiques. Des populations qui n'avaient jamais été exposées à plusieurs maladies venues d'Eurasie ont été frappées à une échelle qui a profondément désorganisé leur société. Diamond souligne ainsi que l'avantage des conquérants ne se réduisait pas aux armes métalliques, aux chevaux ou à la discipline militaire. Les germes ont souvent précédé, accompagné ou amplifié la conquête, sans relever d'une intention stratégique au sens strict. Cette analyse modifie la lecture de victoires apparemment improbables où de petits groupes européens ont soumis de grands États. Elle met en évidence l'interaction entre démographie, élevage, isolement continental et pouvoir militaire, tout en rappelant que les conséquences humaines des épidémies furent massives. Quatrièmement, l'axe est-ouest de l'Eurasie et la diffusion des innovations. La géographie des continents fournit à Diamond un mécanisme essentiel pour comprendre la vitesse inégale de diffusion de l'agriculture et des techniques. L'Eurasie s'étend principalement selon un axe est-ouest. Des régions éloignées peuvent donc partager des latitudes, des durées du jour et des climats relativement comparables. Des plantes, animaux, pratiques agricoles et inventions développées dans une zone ont ainsi davantage de chances de s'adapter à d'autres régions de ce vaste espace. Cette continuité a facilité la propagation de cultures alimentaires et, par extension, de populations, d'idées et de technologies. A l'inverse, les Amériques et l'Afrique présentent des axes plus fortement nord-sud et traversent rapidement des zones climatiques contrastées. Une espèce cultivée ou une technique adaptée à une latitude ne se transfère pas automatiquement à des milieux plus froids, plus tropicaux ou plus arides. Diamond ne prétend pas que les barrières à la diffusion soient uniquement climatiques, relief, désert, maladies, frontières sociales et choix politiques comptent également. Son argument est comparatif. Il montre que la forme et l'orientation générale des masses continentales peuvent rendre les transferts plus ou moins coûteux et contribuer, sur plusieurs millénaires, à des écarts cumulatifs entre sociétés. En dernier lieu, une histoire globale puissante, mais un déterminisme à discuter, la force du livre tient à son ambition de connecter des domaines souvent séparés. Diamond passe de la domestication des espèces à la linguistique, de la géographie continentale aux épidémies, afin de construire une explication à très longue durée. Cette ampleur rend l'ouvrage particulièrement utile pour penser les interdépendances entre environnement, démographie, institutions et technologies. Elle expose aussi sa thèse à une limite importante, en cherchant les grandes causes lointaines. L'auteur peut donner l'impression de réduire la diversité des trajectoires historiques à la géographie. Les institutions, les conflits sociaux, les choix politiques, les échanges entre sociétés et les contingences locales reçoivent parfois une place moins développée que les facteurs écologiques. Certaines généralisations ou interprétations historiques ont donc été discutées par des spécialistes. Lire Diamond avec esprit critique consiste à distinguer la valeur de son cadre comparatif de toute prétention à expliquer exhaustivement chaque cas. Son propos est le plus convaincant lorsqu'il décrit des contraintes initiales et des mécanismes cumulatifs, plutôt que lorsqu'il semble transformer ces contraintes en destin. Cette réserve ne diminue pas l'intérêt du livre, elle en fait aussi un bon point de départ pour interroger ce qu'une explication historique gagne et perd lorsqu'elle privilégie les structures de longue durée. En conclusion, de l'inégalité parmi les sociétés s'adresse aux lecteurs intéressés par l'histoire mondiale, la géographie humaine, l'anthropologie et les origines matérielles des rapports de puissance. Il convient particulièrement à ceux qui souhaitent dépasser les récits centrés sur les seuls grands dirigeants, les guerres ou les inventions isolées. Son bénéfice intellectuel principal est de faire voir les civilisations comme des systèmes inscrits dans des milieux, des réseaux d'espèces, des contraintes de diffusion et des histoires épidémiologiques. Le lecteur acquiert ainsi une grille pour relier la production alimentaire aux institutions et la forme des continents aux trajectoires de peuplement et de conquête. L'ouvrage se distingue des synthèses historiques classiques par l'échelle de sa question et par son effort pour faire dialoguer sciences naturelles et sciences humaines. Là où beaucoup de livres décrivent une ère culturelle ou une période précise, Diamond propose une explication transcontinentale des divergences historiques depuis la préhistoire jusqu'aux expansions européennes. Cette ambition rend la lecture dense et parfois répétitive, surtout lorsque les mécanismes sont appliqués à plusieurs régions. Elle exige également une vigilance critique face aux risques de déterminisme environnemental. Mais précisément, le livre reste remarquable comme modèle de raisonnement comparatif. Il ne naturalise pas les hiérarchies entre peuples, il cherche leurs conditions historiques. Il est donc à lire comme une synthèse stimulante, à confronter à des travaux plus spécialisés sur les sociétés, les institutions et les histoires locales. Si vous souhaitez soutenir Jared Diamond, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.